Entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Bonjour, bienvenue sur Radio Aligre en ce vendredi 22 mai. Il est 18h, je suis Emmanuel Gavard pour l'émission Chute Libre. Alors je vous disais la semaine dernière, ce mois de mai est un peu particulier, puisque Paul de Brancion, qui vous accompagne habituellement le vendredi, est en résidence d'écriture en Ardèche. On lui souhaite d'ailleurs plein de bonnes inspirations. Mais il a laissé carte blanche à deux journalistes, Alice de Brancion et moi-même, pour charmer vos oreilles alternativement en attendant son retour. Aujourd'hui, accrochez-vous, parce que sous ce grand soleil, nous allons parler de tempête, de vent, de submersion. Nous allons parler d'eau, de vagues. Je reçois avec moi Johanna S. pour la sortie de son dernier ouvrage IS, YS, aux éditions de La Crypte. Bonjour Johanna.
Bonjour.
Vous êtes bien accrochée ?
Oui, tout à fait.
Alors peut-être faut-il se laisser au contraire emporter justement par la tempête. On va parler de tout ça. D'abord pour vous présenter, donc, vous êtes comédienne, autrice. Vous êtes diplômée de l'École supérieure d'art dramatique du Théâtre national de Strasbourg. Vous avez déjà écrit plusieurs pièces, Epic Failure, Je perds et Tangible, que vous avez coécrites avec Sarah Bourg. Vous avez aussi écrit pour le jeune public, Créature au pluriel, avec la compagnie La Passée. Et en tant que comédienne, on vous a vu dans de nombreuses pièces à Montreuil, sous la direction de Mathieu Bauer, ou à L'Odéon, dans Le radeau de la Méduse, mise en scène par Thomas Joly. Mais vous êtes aussi poétesse, puisque vous avez publié des poèmes donc, dans la revue Le système poétique des éléments, aux éditions Invenit, ou encore dans la revue Intranquillité. Et là, on peut le dire, c'est plutôt des poèmes qui ne sont pas pour le jeune public.
Oui.
Donc vous faites les deux, on en parlera aussi. Et donc vous venez de sortir, le livre est encore tout chaud, IS, qui est un monologue poétique, une poésie très théâtrale, on en parlera parce que vous défendez justement cette hybridation du théâtre poétique. Mais avant qu'on discute et qu'on rentre dans le propos du livre, je propose qu'on se laisse tout de suite frapper par la tempête, qu'on se prenne le mur de votre langue, parce qu'elle est très particulière, et qu'on commence directement par le début. Sur la côte, des routes et des ruelles, une église, un petit château, des commerces, un port et son ponton, la criée, le sentier des douaniers, des rochers, des touffes d'herbe, une plage, et puis.
Nous arrivons en train. La mère, c'est des cheveux attachés, un collier d'opale, des doigts maigres avec des peaux arrachées de chaque côté des ongles. La mère, c'est un crâne de pirate perdu au fond des eaux. Les poissons lui passent dans les orbites et de toutes petites algues lui poussent entre les dents. Il y a un oursin accroché à la cavité nasale. Elle tire sur la valise et nous pousse en avant.
Le petit frère, c'est mou, c'est de la lenteur, un nez toujours sale, des yeux qui fixent et des bras qui s'accrochent. Le petit frère a un bouquet d'algues marines qui se décomposent en plein soleil à la surface de vaguelettes complètement décousues. C'est le genre qui s'accroche au mollet quand on brasse trop près du bord. Il nous dégoûte, alors on le jette au loin, on l'évite au retour.
La grande sœur, c'est moi, ça prend la fuite, c'est des oreilles qui dépassent de cheveux fins et longs, une dentition chaotique et des baskets à scratch. C'est des jambes maigres qui flottent dans un legging à fleurs, un choker en plastique noir autour du cou et de tout petits yeux qui voient très loin et très grand. La sœur, une hypothèse, un début de problème, parfois une solution. Un coup sur le pif quand un garçon se croit trop haut ou qu'une fille la croit trop bas. Les coups sur le pif, ça rétablit l'ordre des choses. La sœur, c'est le démembrement d'un grand poisson des mers échoué sur le rivage. C'est la chair qui s'envole entre les ailes des mouettes, l'odeur, le soleil sur les mouches, et l'œil fixe qui semble profiter de se laisser faire, de se laisser enfin aller.
Le frère et la sœur, des cris jetés, des yeux, des jambes, des bras jetés, ça s'en mêle et se chamaille, on ne sait plus où ça commence. Et c'est toujours elle qui le frappe et le protège, et c'est toujours lui qui la rassure, juste parce qu'il est là. À porter.
Le père, ça c'est pas commun non plus. C'est une grosse tache de caoutchouc qu'on a trouvée sur la plage. Et dedans, Il y avait une mouette qui s'était endormie. Le père, c'est dans la voiture une montre qui brille, une voix plus grave que les autres qui dit des phrases où les mots sont collés ou qui dit toujours la même phrase avec un mot géant. Le père, c'est une huître géante qui dit un mot géant et c'est toujours en noir que ça se présente.
On sort de la voiture, on est arrivé par le train du matin. Vous allez bien, nous un peu fatigués, comme les enfants ont grandi, on a pris du champagne. L'oncle descend. C'est le plus vieux des ogres. Toute la journée, il avale du poisson et des cailloux. Et quand il porte une montre, les aiguilles refusent de tourner. L'oncle, c'est des babines et des sourcils. La torpeur du soir, le bruit de la soupe au bout de la cuillère. Et quand il est contrarié, il crache dans la cheminée. C'est l'homme à la lanterne, dans la brume, la nuit, le bruit des cailloux mâchonnés et le bruit de ses pas. C'est l'homme des grands départs et des grandes retombées. On ne sait pas où il s'en va, mais ce qu'il fait, c'est certain, est d'utilité publique, car au matin, tout tient debout. L'oncle, c'est quand s'arrête et durcit le granit au bout du regard. Il nous dit « Attention, dans le jardin, il y a des crottes ». Voilà donc ce début de « Is ». Que vous avez écrit et qui est sorti tout récemment. On sent toute cette présentation des personnages qui arrivent, cette langue qui défile tout de suite. Mais à aucun moment, vous nous parlez d'Is véritablement, donc Is qui est une légende, donc vous allez nous la raconter aussi un peu de quoi elle parle. Et s'il n'y avait pas le titre, on ne saurait pas que ça parle d'Is. Alors pourquoi ? Pourquoi tous ces choix-là ?
Alors en fait, le texte il se divise en deux parties. Donc la première partie se passe dans le monde réel et a pour événement la tempête de 1999 qui s'appelle Lothar et qui a frappé la France le jour de Noël justement. Et donc on suit une famille bretonne une famille qui vient du monde marin puisque c'est une famille de marins. Et donc ils sont en train de fêter Noël et ils se prennent la tempête sur la tête. Et là où ça devient fantastique, c'est que la tempête rentre dans la maison, l'océan rentre dans la maison et on bascule dans un monde sous-marin dans la deuxième partie. Et c'est là où il y a l'évocation du coup de cette légende de la cité 10. En fait, la cité 10, c'est une cité en Bretagne qui n'existe pas, qui est une légende. Et qui raconte en fait une cité qui était... c'est un peu une histoire... Enfin, ça se rapproche de l'histoire de Sodome et Gomorre, puisqu'en fait, c'est une cité qui était gouvernée par une princesse, la princesse Dahu, qui était très belle. Tous les hommes étaient amoureux d'elle, mais elle ne souhaitait pas se marier. Et en fait, c'était une cité de débauche, une cité de richesse. Et il y aurait eu un châtiment divin. Alors après, la légende s'est fait réinterpréter par le christianisme.
Elle
a beaucoup évolué.
Plusieurs légendes disent déjà.
Je ne sais pas laquelle raconter exactement. Mais en tout cas, donc c'est...
Celle sur laquelle vous vous êtes un peu basé,
oui,
on va dire.
Oui, et donc du coup, cette princesse Dahu, à cause de son comportement, elle aurait provoqué la colère divine et la cité se retrouve engloutie sous la mer parce qu'en fait, il y a un chevalier rouge qui arrive dans la cité, qui séduit Dahu, c'est le seul qui arrive à la séduire, et il lui demande la clé des portes de la cité. Et les portes, en fait, elles s'ouvrent sur l'océan. Donc elle va aller prendre la clé qui se situe sur un collier au cou de son père, le roi Gradelon. Elle vole la clé, elle la donne à ce chevalier rouge qui va ouvrir les portes de la cité et provoquer la ruine
de la ville
et des habitants.
Des habitants, voilà. Et donc elle sera enfouie à jamais et on la reverra
plus jamais.
Elle sera
enfouie à jamais, exactement. Et elle se situerait entre Douarnenez et Argol, en fait, dans le bras de mer entre les deux.
Alors comment vous l'avez découvert ce mythe ? Vous allez régulièrement en Bretagne ?
Oui, puisque je suis bretonne par ma mère et en fait donc ma famille est bretonne du côté maternel et quand j'étais petite je lisais beaucoup de livres de contes et dans les contes que je lisais il y avait celui de la cité 10 et c'est celui qui était mon préféré et que je lisais tous les soirs avant de m'endormir.
Et vous savez pourquoi ? Mon conte vous touchait plus que les autres ?
Je pense que j'ai toujours été attirée par le monde marin.
Ouais.
Et puis après, pendant des années, j'ai fait des rêves de tsunami où je courais, il y avait une vague derrière moi. Enfin, c'est vraiment, okay. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ce côté-là. Et puis ma princesse Disney préférée, c'était la petite sirène. Mmh. Et je crois que j'aime bien le côté tragique aussi.
De cette ville qui se retrouve.
Oui, et après, la princesse Dahu, elle est aussi, c'est aussi une figure féministe, puisque c'est celle qui refuse d'être assignée au mariage à un homme. D'ailleurs, son vrai mari, c'est l'océan, puisqu'en fait, sa mère, la reine Maeghwen, était une reine des pays nordiques qui était une magicienne. Donc Dahu, elle est née sur un bateau en plein cœur de l'océan et elle descend d'une lignée de magiciennes. Donc c'est un personnage un peu magique aussi.
D'accord.
Et d'ailleurs, la légende dit que quand la cité a été engloutie sous les eaux, Dahu s'est transformée en sirène. En fait, elle s'est transformée en Mary Morgan, qui est la première sirène bretonne, en fait.
Très bien. Dès le départ, votre projet d'écriture, c'était de réécrire ce mythe, ou alors vous aviez une autre idée et ce mythe s'est inscrit dans cette réécriture, dans ce projet d'écriture. Comment vous avez travaillé avec ce mythe ?
En fait, je crois que tout est parti, non pas du mythe de la Cité 10, mais de mon sentiment d'un monde en perdition. L'impression que je pense qu'il est commune à beaucoup de gens, l'impression qu'on se situe juste avant une catastrophe. Et j'ai voulu travailler sur ce sentiment, notre rapport à la catastrophe et notre appréhension de la catastrophe. Et je me suis souvenue de cet événement de la tempête Lothar dont tout le monde se souvient. En fait, les Américains, ils ont par exemple le 11 septembre 2001, où ils savent exactement où ils étaient quand ils ont appris ce qui s'est passé. Et nous, on a un peu... Enfin, à chaque fois que je parle de cette tempête, tout le monde me dit « Mais je sais où j'étais, je me souviens de cette tempête. »
La tempête de l'an 2000.
La tempête de l'an 2000, exactement. Et on était juste avant le passage à un nouveau millénaire. Tout le monde avait peur du fameux bug de l'an 2000. Tout le monde pensait qu'on allait mourir. On nous prévoyait l'apocalypse. Comme si on pouvait pas penser qu'on allait passer à un nouveau millénaire de façon normale. C'était comme si ça allait forcément amener une fracture et à ce moment-là, on se prend la tempête sur la tête. Quoi.
Et surtout que c'est la première des deux tempêtes, parce qu'en fait, si je me souviens bien, il y en a eu deux. Une qui est passée au sud, une qui est passée au nord.
C'est
et tout le pays, en deux jours et demi, a été balayé de fond en comble.
Exactement. C'est ça.
Donc c'est pour ça que ça a marqué l'imaginaire des Français. En fait,
exactement. Exactement. Et donc je rappelle à la fois un événement commun à tous dans l'imaginaire collectif et à la fois un mythe.
Mais vous l'inscrivez dans le présent, ce mythe dans le présent pour peut-être nous prévenir de nos tempêtes autour de nous.
En fait, oui, peut-être. Peut-être. En fait, moi, je pense que je me sers du fantastique et de la poésie. Les deux, pour moi, sont des médias pour parler de la réalité. Je ne suis jamais vraiment touchée par les textes trop réalistes. J'ai besoin de quelque chose qui parle à l'imaginaire. Parce que notre rapport au monde, on ne peut pas se défaire de l'imaginaire. On en a besoin. Il fait partie de notre rapport au monde.
Directement.
Voilà.
Et justement, vous êtes venu avec plusieurs musiques qu'on vous a demandé de choisir. Et la première, c'est donc La Tempête de Beethoven, qu'on va écouter tout de suite.
Thank you.
Je me jette contre la fenêtre. La mère et le père me saisissent au poignet. Arthur ! Mais c'est Arthur, je crie, et la grand-mère de ses gosiers. Qui c'est ça qui est là ? Tandis que les silhouettes s'effeuillent dans la tempête, juste sous nos yeux. Je vois l'homme et le garçon, le père et le fils perdre leurs vêtements un à un. Je vois le chapeau s'envoler, le ciré s'envoler, je vois les jambes qui s'écartèlent en tentant d'avancer, et les os craquer sous la tempête, et les joues s'étirer sur les visages comme dans un saut en parachute, les dents serrées, les yeux fermés, pleins de larmes qui filent comme des gouttes sur l'autoroute, priant de s'en sortir, d'arriver jusqu'au garage.
Je me jette une deuxième fois contre la fenêtre, et cette fois-ci, personne ne me retient. Le père et la mère sont collés, la tante collée aussi, et le plus vieux des ogres et le petit frère, tout le monde est collé, collé contre les fenêtres, agrippé par les yeux à cette image tenace de ces deux hommes dans la tempête, de ces deux vies en train de gesticuler, perdant l'équilibre, s'accrochant l'une à l'autre, comme pour braver l'ivresse, le vent, la mort, comme une danse étrange que seul effectuerait celui qu'on braque avec une arme à feu.
Je suis collé contre la fenêtre et j'attire par mes prières. Je murmure des filets pour entourer les jambes, stabiliser les pieds, retenir les étoffes, les cheveux, les membres. Je formule tout bas dans une langue inventée. Je tisse des mots qui sauveront leur vie, qui sauveront Arthur et Loïc. J'invente ma chance, je brise le vent. Et dans ma voix pousse une force invisible, un cheval rempli de couteaux, un tank, une milice, un trampoline, une cloche de verre, des ailes de rapace qui se replient sur les dos courbés. Enfin, la porte se referme, la porte du garage. Et le plus vieux des ogres retient de justesse le grand corps de Loïc qui s'effondre, épuisé. Vous êtes sur Radio Aligre, Chute Libre. Je suis avec Jonah S., autrice de ce livre Is, dont vous venez d'entendre des extraits de cette tempête sur la musique de Beethoven, La Tempête, justement, le mouvement L'Allegretto. C'est une musique que vous avez écoutée pour écrire ?
Oui, complètement. Et d'ailleurs, cette musique, elle me suit depuis longtemps, puisque j'en ai parlé, enfin, j'en parle dans un texte qui n'est pas publié, mais que j'avais écrit avant, qui est aussi un récit poétique, et qui s'appelait La Lune est morte, et où je parle justement de ce texte-là, parce que oui, il m'accompagne depuis très très longtemps, en fait.
Ce morceau. Ouais. Alors, dans les descriptions qu'on a entendues, et là encore dans l'extrait qu'on vient de lire, les éléments sont toujours extrêmement présents. Alors, dans une tempête, on va dire que c'est normal, mais plus que présents, ils font intégralement partie du corps de ces personnages, à tel point qu'on ne sait plus si la tempête agit sur les corps, ou si les corps font partie de la nature, une sorte de tout. Pourquoi ce mélange total de tous ces éléments devant nous ?
Ben, peut-être parce que je suis un peu romantique.
<Peut-être>.
Et que les romantiques, finalement, ben, les paysages dépeints et reflétaient leurs états d'âme. Et ensuite, oui, j'aime bien aussi l'idée que... puisqu'on parle de catastrophe climatique, que de réduire l'homme à ce qu'il est, c'est-à-dire pas grand-chose, et que face à la nature, il ne faut pas faire les malins, quoi.
Il est un élément de la nature.
Il est un élément de la nature, et par conséquent, il peut la subir aussi.
Il peut, et de manière très, très violente.
Oui.
Comment vous avez choisi toutes ces images ? Alors, vous faisiez des rêves, vous avez dit de tsunami, donc finalement, j'ai l'impression que les images de nature envahissante vous ont toujours hanté. Mais est-ce que vous avez particulièrement travaillé sur des documents, comment vous avez été chercher ces images d'éléments ?
Oui, je me suis beaucoup renseignée sur la tempête Lothar, justement, et j'ai trouvé des images d'archives, notamment des reportages d'époque, les informations, et c'était... C'était absolument dingue, en fait. Ils racontaient parfois que les routes étaient barrées par des arbres, alors du coup, les automobilistes partaient et essayaient de passer par les champs. Enfin, des fils électriques qui pendaient par terre, du feu qui sortait de la terre.
Dans la tempête, c'est l'apocalypse à chaque coin
d'un rue. L'apocalypse complète, ouais.
Vous l'avez vécu, vous aussi, cette tempête ?
Oui. Tout à fait.
Et est-ce qu'elle est rentrée dans la maison ?
Non, Dieu merci. Mais d'ailleurs, il disait de pas s'approcher des vitres parce qu'elles pouvaient éclater. Enfin, donc, là, effectivement, dans mon récit, il y a un moment, une vitre qui éclate. D'ailleurs, c'est le début de la tempête. Enfin, le début de l'arrivée de la tempête dans la maison.
Alors justement, c'est cette métaphore des corps organiques qui se mélangent avec la nature, ils rappellent énormément de choses. On peut y voir les métamorphoses d'Ovide. Vous aviez partagé une recension de Pierre Trouillet qui évoque aussi Pierre des Caraïbes, ou qui évoque
l'Otréamon
aussi énormément avec la scène du requin. Ce sont des images qui vous-même vous ont marqué toujours.
Oui, parce que je suis très marquée par les écrivains surréalistes et les écrivains symbolistes.
Oui, il y a du Boris Vian d'ailleurs aussi un peu là-dedans.
Et en fait, je crois que vraiment, ce qui m'intéresse, et encore une fois, c'est vraiment de chercher l'imaginaire. Et voilà, je cherche l'imaginaire, je cherche la poésie, les mythes. En fait, je cherche l'origine des histoires un peu. Quelles sont les histoires qu'on se raconte? Qu'est-ce que ça raconte de nous? Qu'est-ce que ça nous apprend? Comment on peut appréhender le monde par les histoires? Et puisque je suis comédienne, c'est aussi l'œuvre du théâtre, de montrer le monde au monde, de réfléchir le monde, de transformer le monde. En tout cas, parce que le théâtre n'est pas le reflet exact du monde. Il est un reflet transformé par des artistes.
Alors, on le disait en début, ce mythe, il est aussi réinscrit dans le présent pour pouvoir aussi nous questionner face à ce qu'il décrit, cette tempête, cette submersion. Comment on trouve le juste équilibre, justement, entre cette incarnation actuelle, concrète, de cette tempête Lothar, qu'on ait des repères entre le sapin de Noël, la remorque, le garage, tous les éléments quotidiens de la scène que vous décrivez, et en même temps, cette forme mythologique. J'imagine que dans le travail d'écriture, il y a un équilibre à trouver. Comment vous avez cherché ça?
En fait, je crois que j'ai cherché l'écriture... d'un conte. Pour moi, c'est un conte. Et ensuite, le fait de faire apparaître des éléments du réel, comme justement les bennes à ordures dont je parle, les girouettes, les panneaux électriques, à un moment j'en parle dans le texte, tout disparaît. En fait, le fait de mettre dans mon récit, qui est une sorte de conte, le fait d'y ajouter des éléments réalistes, crée un conte moderne, en fait.
Avec ces éléments, donc...
Oui, mais on est bien dans le conte, vraiment. Et d'ailleurs, les personnages, ils sont très archétypaux aussi.
C'est très, justement... Il y a du romanesque aussi, c'est théâtral, mais il y a du romanesque. Et il y a un extrait qui m'a marqué sur ce personnage de Loïc, donc le pêcheur. Donc,
oui, qui symbolise, le voisin.
Le voisin, qui symbolise aussi la mer, qui fait la présence de la mer par son... Loïc, c'est toujours les mêmes satanées bottes, le même ciré, toujours la même barbe remplie de crabes et de bulots, les mêmes rougeurs, la même lueur au fond des yeux comme un vieux phare, un vieux cierge, ou le dernier reflet d'un très très vieux soleil à la surface des vagues, le soleil d'une journée pour toujours gravé dans la mémoire, celle de la rencontre avec sa défunte femme, la grosse Maëlle, qui rôde encore, on dit qu'elle rôde dans les débris de la vieille grange abandonnée, là où pendait la corde. Loïc, c'est tous les jours un peu plus loin, cet éclat de très très vieux soleil, c'est tous les jours un peu plus enfoncé dans le creux des orbites, comme si quelqu'un avec un clou et un marteau lui avait dit que ça suffit. Que le chagrin, on ne doit pas se pavaner avec. On ne doit pas l'étendre pour le laisser sécher, mais l'enfoncer le plus loin possible et refermer devant les yeux les portes des maisons. Loïc, c'est très très loin maintenant qu'on peut le trouver, ce très très vieux soleil. Pourtant, ça brûle encore. Il avance, tire sur le bras de son fils, qui est tombé au sol, commence à s'envoler. « Arthur !» il crie « Tiens bon !» Ce personnage, il est, enfin, on sent que il y a les éléments, il y a ces personnages organiques qui font partie de la nature, mais ils ont aussi tout un passé, ils ont toute une incarnation humaine profonde. Et c'est là où ça se rejoint avec le conte et ce que vous décriviez.
Oui, tout à fait, c'est ça.
Alors, dans cette tempête. Dans cette tempête, finalement, une fois qu'elle arrive, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la subit ou est-ce qu'on essaye de s'en défaire? Est-ce que vous vouliez faire passer une idée là-dessus?
Je pense que dans un premier temps, ils la subissent. Et dans un deuxième temps, quand ils se retrouvent dans l'océan, le personnage principal, qui est la fille de la famille et qui raconte l'histoire, puisque c'est elle la narratrice, va devenir presque la divinité de l'océan et ranimer la cité 10, ranimer les corps. Et en fait, c'est ce qu'elle va dire pendant quasiment tout le texte. Il y a un mot comme ça qui revient. Elle dit « je ranime ». Et en fait, là, la volonté revient. En fait, la volonté et la reprise du pouvoir.
Donc il y a une prise de pouvoir sur la nature derrière ?
Pas sur la nature, mais sur... là,
sur son destin.
En fait, c'est compliqué parce que pour moi, c'est un texte plein de mystères. Donc, le décortiquer comme ça et donner des réponses, c'est un peu contraignant parce que justement, je crois que même moi, je ne les ai pas, les réponses. Oui. Je dirais que dans un premier temps, oui, elle le subit. Et dans un deuxième temps, c'est le carnaval des morts, en fait. C'est-à-dire que tout d'un coup, on est mort, et ben on va danser. Donc, est-ce que c'est une reprise du pouvoir ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est y a une forme de fête. Et,
de vie.
Et de faire fête de la catastrophe, en fait. Faire fête de la mort, faire souvenir, faire mémoire, se rassembler.
Voilà, faire de nouveaux corps.
Donc, je ne sais pas vraiment, parce que il n'y a pas de morale, par exemple. Il n'y a pas de discours, il n'y a pas de...
Oui, c'est là où, par rapport au conte où on disait, c'est pas un conte qui a vocation à dire aux gens attention à ça.
Non.
C'est un conte qui procède par immersion.
Exactement. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que... Mais c'est étonnant parce que j'en parlais tout à l'heure avec mon frère. On parlait de théâtre et je lui disais que j'aime, moi, ce qui me touche au théâtre, c'est quand on me laisse en tant que spectatrice ma part de rêve, ma part de réflexion. Et je n'aime pas qu'on me dise « Ben voilà, il faut penser ça.
» Voici ça, ce que le texte veut dire.
Voilà, ça c'est mal, ça c'est bien. Là, il faut rire, là, il faut pleurer. Non, en fait, il faut vraiment... Moi, j'aime vraiment les textes mystérieux. Et là où, en fait... Le lecteur devient poète à son tour, en fait, en lisant le texte.
Alors justement, dans cette action agissante, et c'est marrant que vous parliez de votre frère, puisqu'il y a ce passage avec le frère,
oui.
Je vous laisse le lire, sur le passage où justement, elle reprend, elle agit, commence à agir sur la tempête.
L'eau s'enroule dans tous les sens autour de mes jambes, et j'ai peur de nous noyer. Le petit frère est si lourd. Il est si lourd à mes épaules que mon dos va casser. Il plante ses ongles dans mes bras et j'attrape ce que je peux pour nous tenir à flot. Mais les meubles, à la dérive, s'enfoncent sous mes poussées. Le plafond se rapproche. Je vois des mains au fond de l'eau, des bras tendus vers nous. Je bats plus fort avec mes jambes. Je pousse des cris comme on frapperait le sol pour chasser les vipères. Alors, le plus vieux des ogres apparaît. Il prend mon bras et le tire en avant. Nous allons trouver les autres, je me dis. J'espère sauver mon frère, je me dis. Où est Arthur, je me dis. Est-ce que c'est la fin de tout ? Il me fait passer devant lui, prend le petit frère et me pousse violemment dans le dos. « Te retourne pas !» il crie. « Les regarde pas !» il crie. « Surtout, ne les regarde pas !» Et il continue de me donner de grandes poussées avec ses paumes, aussi larges et puissantes que des murs en béton. Mon dos va casser, je me dis, tout en admirant les bonds qu'il me fait faire contre la force de l'eau. C'est prodigieux. On avance, on bondit, on fend le tumulte et on parvient très vite à la porte fermée qui mène au parking extérieur, au jardin, à la tempête venue de l'Atlantique qui ne doit sûrement pas être pire que ce déluge ahurissant qui tombe dans notre maison, jeté sur nous par une force inconnue.
C'est beau ces mains tendues. Au milieu de la tempête.
En fait, oui, c'est tous les morts, en fait. C'est-à-dire que c'est les morts de la cité 10 qui commencent à arriver, qui sont sous l'eau et qui essayent d'attraper. Et c'est aussi tous les âmes dans le Styx, tout cet univers des fleuves où il y a les morts dedans qui essayent d'attraper les vivants et de les amener...
Vers le fond.
Vers le fond, tout à fait.
Donc en fuyant la tempête, en fait, elle est tirée entre les deux mondes.
Et après, il y a dans la légende de la cité 10, donc la princesse Dahu, elle vivait en haut d'une tour. Chaque soir, elle choisissait un amant avec qui elle voulait passer la nuit. Elle le faisait monter dans sa tour. Elle lui mettait un masque de soie, elle couchait avec, et au matin, le masque de soie étouffait, se resserrait magiquement et étouffait l'homme. Et ensuite, les gardes le jetaient dans la baie des Trépassés. Et à Douarnenez, il y a toujours cette baie des Trépassés. Donc en fait, c'est aussi un clin d'œil à tous les amants de Dahu jetés dans l'eau.
Qui essayent d'attraper et de montrer qu'ils sont toujours là. Deuxième pause musicale, The Way It's Gone de Zola Blood. Vous êtes sur Radio Aligre, Chute Libre, je suis avec Johanna S. pour son livre Is, cette réécriture théâtralo-poétique du mythe d'Is qui nous plonge dans la tempête Lothar, mais aussi dans la tempête mythologique qui nous plonge dans cette submersion, dans cette langue aussi, parce que c'est aussi toute une écriture et tout un langage qui vous immerge. Et donc en fait, cette tempête, parce que elle passe, c'est une métaphore aussi de tout ce qui passe autour de nous, ce qui pourrait arriver, ce que l'on observe et ce qu'on voit. Et c'est aussi un livre sur les passages.
Mmh. Oui, il y a trois mises en abîme en fait. Il y a donc cette famille qui passe de la côte bretonne à vivre au fond des océans, ou à mourir plutôt au fond des océans. On ne sait pas trop s'ils sont en vie ou s'ils sont morts. Il y a le personnage principal donc, de la fille, qui est préadolescente et qui va vivre sa première expérience amoureuse et sexuelle. Donc c'est un peu la fin de l'enfance aussi. Et il y a la cité d'Is en lame de fond, qui est en fait une cité, qui est en fait une légende païenne à l'origine, qui a été récupérée par le christianisme. Et donc du coup, ça raconte aussi la mort du monde païen au profit du christianisme.
Donc ces différents passages, ces différents changements et changements d'état que tout le monde va subir, même le mythe de manière méta va se transformer par le passage de cette tempête. Et donc, vous parlez de ce protagoniste, cette jeune fille. Mm-hmm. Donc, on a cet extrait, effectivement, où elle vit sa première expérience. Arthur m'embrasse, et c'est la première fois qu'on m'embrasse comme ça sur la bouche. Je dis merci, et puis on recommence. On met la langue et les mains, les siennes sont grosses et rouges, mais elles sentent bon. Et moi je pense, ce matin encore, je regardais des dessins animés, et je ne regarderai plus jamais de dessins animés. On s'allonge sur le tapis de bain, on ferme les yeux, alors tout se mélange, il y a du vent, de la salive, des arbres fracassés, des doigts qui s'enfoncent et des flots qui charrient, tout ça disparaît. Et se noient les frissons sous la peau, le carrelage, les brosses à dents, les idées reçues, et l'attente et le désir des tuyaux éclatent, le sol du salon au premier étage se met à faire un trou, se délite, rend les armes et la grand-mère aux yeux blancs qui était dans son fauteuil depuis la nuit des temps. Tout ça s'effondre et jaillit en explosions de gravats, de murs de plâtre, et je vois derrière mes yeux, derrière mes souffles, quelque chose qui se fracture et se retourne, tandis qu'une pluie d'obus s'abat dans le jardin. Ce sont les étoiles que le vent jette au sol. Je mords dans les lèvres d'Arthur, je lui arrache avec mes dents un baiser de condamné. Alors on se met à rouler tellement vite et tellement fort, nos deux corps l'un sur l'autre empêtrés dans la vitesse. Ça tangue, ça se percute contre la baignoire et sous les pieds des lavabos. Ça voudrait se défaire ou bien fusionner, finalement ça se défait. Et je cours ses mains encore dans les miennes accrochées par les doigts, les cheveux dans la braguette, une chaussure derrière moi que je refuse de récupérer. Alors il disparaît aussi, Arthur disparaît. Se transforme en ombre lointaine comme avalée dans un marécage de tout ce qui serait derrière. À présent, il ne faut pas se retourner. On le voit bien, le passage à l'âge adulte.
Oui.
C'est assez incroyable, cette description de tout qui se mélange.
Et la maison qui explose à ce moment-là.
À ce moment-là, une synchronicité incroyable.
Oui. Mais là, c'est pareil, c'est très romantique finalement, puisqu'ils vivent une explosion d'essence et la maison explose en fait.
En même temps qu'elle.
Voilà. Et puis, il y a un rappel à plusieurs contes, puisqu'il y a à la fois Cendrillon qui oublie sa chaussure, il y a le mythe d'Orphée et Eurydice, où il ne faut pas se retourner, puisque voilà, sinon on ne peut pas quitter le monde des morts. Et d'ailleurs, je voulais dire que l'eau, c'est aussi symboliquement un endroit du rêve, de l'inconscient et de la sexualité.
Oui. Dans la psychanalyse, pour
oui,
le coup.
Exactement.
Donc cette tempête, on voit, cette tempête du livre 10, elle matérialise tous ces transformations, ces passages. Vous immergez en fait le lecteur là-dedans pour se questionner, pour se représenter, pour vivre finalement ces tempêtes qu'on peut tous vivre. On parle parfois de tempête émotionnelle, donc est-ce que le but c'est d'aider aussi un peu les gens à comprendre leur tempête émotionnelle?
J'aurais pas cette prétention
là. On peut dire que c'est une question nulle, hein, j'ai pas de problème.
J'aurais pas cette prétention là d'aider les gens à comprendre leurs tempêtes émotionnelles, mais par contre ce qui est sûr, parce que vous parliez d'immersion, c'est que là on vous lit des extraits du texte depuis tout à l'heure et on y met une ponctuation, mais elle n'existe pas dans la façon dont le texte est écrit. On le fait là à la lecture pour une meilleure compréhension, mais en fait quand on lit, quand on lit le texte, le livre, il n'y a pas de majuscule, il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, et c'est comme des longs versets comme ça qui vont à toute allure, et parfois je me suis amusée à mettre des mots qui pourraient aller avec la phrase d'avant ou alors avec la phrase d'après, et c'est au lecteur de choisir à quoi il rattache le mot, si c'est à ce qui se passe avant ou à ce qui se passe après. Et j'ai un ami éditeur récemment qui m'a dit « Mais en fait, on a l'impression de se noyer quand on lit ton livre. » Parce que...
C'est à nous de respirer.
Voilà.
C'est à nous de choisir de respirer.
C'est à vous de choisir de respirer, exactement.
C'est à nous de plonger, de sortir hors de l'eau de temps en temps, hors des phrases, et de dire « C'est là que je vais respirer. »
Exactement.
Et donc, du coup, dans la forme, cette vague de submersion, on l'a subie. Dans tout ce que vous avez dit, vous m'aviez dit tout à l'heure, c'est finalement ce texte, c'est comme des traces de ce qui reste du passage de la tempête.
Oui, c'est ça, parce qu'en fait, oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai, à la toute base, et c'est peut-être un peu conceptuel et intellectuel, mais je ne voulais pas mettre de ponctuation parce que j'imaginais que c'était ce qui restait, en fait, les mots qui restaient de ce qui s'était passé. Et donc, ouais, c'était comme des traces, en fait. On sait pas. Et donc, c'est d'où le fait qu'il manque des choses, que c'est comme, c'est un petit peu comme, je voulais un texte un peu archéologique, comme ça.
Où on recoupe les morceaux un peu nous-mêmes. On peut même lire des extraits dans le désordre, ça marche aussi.
C'est ça.
Bon, il y a quand même une narration et il y a quand même une histoire et un conte. Il y a quand même un début de tempête et une fin de tempête. Mais en tout cas, dans la lecture, dans le rapport au langage, on peut aussi y voyager. Ce texte, c'est aussi une sorte de rite de passage à l'âge adulte. Et c'est aussi quelque chose qui vous, pour le coup, pas que dans Is, mais dans d'autres projets, vous travaille ce rapport à l'enfance.
Oui, c'est dans tous mes textes.
Alors vous avez écrit pour des...
Oui, j'écris du théâtre pour les enfants. J'écris régulièrement des pièces jeunes publics pour la compagnie Les Ombres des Soirs, qui est basée en Alsace. Et on les joue régulièrement là-bas. Et c'est vrai que... Et je rêve d'écrire un roman pour les enfants aussi.
Un roman pour enfants.
J'aimerais bien. Je ne sais pas si j'y arriverai, mais oui, c'est un projet en tout cas. Parce que je pense qu'en fait, on est tous des enfants. Après, on apprend à payer ses impôts, on apprend à conduire une voiture, mais en fait, au fond, l'enfant qu'on a été, il est indemne, je trouve.
You need a friend, you don't need a lover. A sister or a brother, but I can't help you with that problem. When you held me in your arms, I could say to you, oh, you need a friend, you don't need.
Vous êtes sur Aligre, Chute Libre, je suis toujours avec Johanna Hess pour son livre Is, et vous venez d'entendre Friends and Lovers, chanté par Lawrence Williams, et je crois que c'est quelqu'un que vous connaissez bien, Lawrence Williams.
Oui, tout à fait, c'est un chanteur, compositeur et musicien qui travaille beaucoup dans le monde du théâtre, et avec lequel je travaille en ce moment pour, justement, nous allons lire Is le 5 juin à 19h, dans un lieu qui s'appelle l'Anomalie, qui est dans le 6e. Et on fait une soirée tous les trois avec un poète belge qui s'appelle Aurélien Donny, qui vient de sortir un livre qui s'appelle Désir dingue aux éditions Bruno Doucet. Et on fait une soirée poésie-musique.
Tous ensemble.
Tous ensemble le 5 juin à 19h. À l'Anomalie.
Et donc vous allez le chanter, ce texte 10 ?
Non, moi je vais le jouer un petit peu en fait. C'est plus qu'une lecture, c'est une lecture jouée. Et Lawrence va chanter.
D'accord. Avant qu'on revienne sur cette question théâtrale du texte, vous êtes venu aussi avec d'autres textes sur aussi ce qui nous reste après ces passages justement de tempête qui sont toujours... Donc il y a ce passage de l'âge adulte, on en parlait, du personnage principal, enfin en tout cas une des étapes du passage à l'âge adulte, parce que la sexualité, on va dire, n'est pas que le premier passage, l'unique passage à l'âge adulte. Et vous avez un extrait d'Écarlate de Christine Pavlovska.
Oui.
Vous pouvez peut-être nous en lire un petit bout.
Oui, et c'est le début. Jamais, jamais je ne deviendrai adulte. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Jamais je ne deviendrai comme ces écrasantes grandes personnes qui oppressaient mon enfance par la sécheresse de leur raisonnement. Et puis, avoir tant et tant aimé, cela rend tout petit. En fermant les yeux, je regarde mon cœur, là où sont mes stigmates d'amour, et je me dis, ceci est ma lumière, et nul ne peut me la prendre. Jamais je ne deviendrai adulte. J'ai aimé les gens, les inconnus qui passent, aimé l'amour. J'ai aimé la nature, la nuit, le vent, la neige, et tout ce qui est sensation m'a pénétré jusqu'à l'âme. J'ai aimé les choses les plus simples et les plus innocentes, les marches sous la pluie et le froid aigre des petits matins d'hiver. J'ai aimé aussi les choses les plus étranges, l'ombre des sanctuaires, la magie des clairs de lune et des crépuscules précoces. J'ai aimé Dieu et diable, et à chaque instant où j'ai aimé, j'ai été amour et rien qu'amour. C'est ce qui perd les petits enfants. Un beau jour, un mur leur renvoie leur amour disloqué et ils se brisent contre lui. J'ai rencontré le mur, j'ai ramassé mes débris et à présent, je recommence.
Et donc ces enfants qui perdent leur amour, qui le ramassent, c'est ça les adultes ?
C'est une belle proposition en tout cas. Oui. Il y a une forme d'innocence et, dans l'enfance et surtout une propension à une capacité, une disponibilité à l'imaginaire qui est absolument extraordinaire. Et justement, le théâtre, c'est aussi jouer d'autres personnes avec des costumes, des lumières. En fait, c'est un petit peu jouer comme des enfants.
Et ramasser les idées, les choisir, les bouts et en faire, essayer d'en faire quelque chose. Et c'est un peu ce que vous proposez avec Is.
Oui.
Non mais on parlait de cette langue qui n'avait pas de ponctuation et où à un moment donné le spectateur est obligé de choisir où il faut qu'il respire, d'essayer de...
C'est un peu un jeu aussi que je propose au lecteur.
De...
Mais parce qu'en fait moi je pense qu'il faut laisser une place au lecteur quand on écrit. Et il faut laisser une place au spectateur quand on fait un spectacle. Il faut absolument laisser le spectateur et le lecteur travailler. Et c'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais, mais en fait, il faut que le poète s'éteigne et que, voilà, il faut que le lecteur devienne poète à son tour, en fait. Que les deux, et le poète et le lecteur, soient, participent au poème, en fait.
Et participent tous les deux ensemble à l'œuvre.
Oui, c'est ça, exactement. Parce que je pense qu'on n'est pas inactif quand on est lecteur.
Alors, c'est un texte qui est écrit vraiment à la manière d'une pièce de théâtre, avec des didascalies, avec ses présentations de... Alors, il n'y a pas de personnage, de tiré personnage, comme on pourrait l'avoir dans une pièce de théâtre écrite. Mais... Et puis, on le sent que c'est un texte qui est écrit pour être lu tout haut, alors qu'il peut être lu aussi de manière intime, hein, y a ça, évidemment.
Oui, il est très oral.
Il est très oral.
Il est très rythmique. Il est très imagé aussi.
Et ça, c'est un projet. C'est-à-dire, dès le départ, vous vouliez faire un monologue.
Oui, je le conçois comme un monologue poétique et je voulais vraiment qu'il soit édité en poésie. Et en même temps, je voudrais vraiment qu'il puisse trouver une place dans le cadre du spectacle vivant, en fait.
Et dans vos autres projets, c'était déjà un peu cette hybridation entre poésie et théâtre était déjà présente ou c'est la manière la plus aboutie que vous avez
Il y a toujours de la poésie dans ce que j'écris. Même les pièces pour enfants, il y a toujours des passages poétiques. Et oui, j'ai une écriture qui est hybride, qui est entre le théâtre et la poésie.
Et c'est un choix ou elle s'impose à vous ?
Ah, la poule ou l'œuf, je ne sais pas.
Non, mais c'est quelque chose qu'on veut défendre ou c'est quelque chose qu'on constate un jour, on écrit et on constate qu'on écrit comme ça.
Un peu des deux, peut-être.
Un peu des deux, peut-être.
Ouais.
Il n'y a pas de réponse forcément à...
Je pense que oui, il y a une part de choix et il y a une part de on fait ce qu'on peut avec ce qu'on est, quoi.
Oui. Vous êtes vous-même, après, je ne sais pas, combien de temps, quand vous avez fermenté cette idée de réécriture de ce mythe, est-ce que vous-même vous avez été transformé après ? Est-ce que après cette tempête, dis-vous-même, vous avez...
En fait, ce texte, il a eu plein de formes différentes. Au début, j'ai commencé à faire des recherches même sur les Pokémon, parce que le jeu était sorti peu de temps avant décembre 1999. Il est sorti peu de temps avant. Il y avait Pac-Man. Enfin, j'essayais de chercher plutôt du côté de la pop culture. Et puis, j'essayais des choses au niveau de l'écriture. Ça marchait pas. Et donc, il a eu plein de formes jusqu'au moment où j'ai trouvé cette écriture-là. Et là, il a découlé tout seul.
Là, il est sorti.
Oui. Il est sorti et en fait, l'écriture du texte... En fait, il y a eu un long temps de recherche et j'ai lu beaucoup. J'ai lu tous les bouquins que j'ai trouvés sur la Cité 10. J'ai lu un mémoire d'une personne à l'université qui avait fait un mémoire sur la Cité 10. Et c'est grâce à lui d'ailleurs que j'ai pu trouver plein de livres sur cette légende. Et en fait, je me suis documentée beaucoup aussi sur la tempête Lothar. Et après, il y a eu un temps d'écriture qui a été hyper long. Je ne trouvais pas la forme juste. Et quand j'ai trouvé la forme, le texte est sorti tout seul.
Il a vocation à... Parce qu'il s'inscrit quand même aussi dans une société où on a ces questionnements climatiques, ces catastrophes climatiques qui vont aller grandissantes. Donc l'image de la tempête... Ça, évidemment, ça réveille chez nous des choses très très fortes. Une société, on sent, qui est aussi en mutation, qui est en pleine tempête dans son organisation, dans son rapport au réel, dans son rapport à la technologie. Est-ce qu'il a un geste qui veut aussi se démarquer là-dedans et dire quelque chose où chacun, le mythe se suffit à lui-même?
Je ne sais pas.
Il est sorti et chacun fait comme
voilà.
Chacun fait comme il peut. Merci beaucoup. Merci à vous. On a un dernier poème qui est que vous avez écrit, qui est extrait de votre une précédente pièce de théâtre.
Oui, Je perds. Je perds, qui est une réécriture du Partage de midi de Paul Claudel.
Et qui traduit un peu aussi toute la question que vous mettez dans l'île, qui est qu'est-ce qui nous reste après le passage de la tempête, quelles sont les traces, justement. Il s'intitule « Le deuxième homme ». « Je ne parlerai que pour dire qu'on ne m'entendra plus. Aujourd'hui, pas de révolte, pas de plainte et plus de lyrisme. Aujourd'hui, je perds. L'amour, je perds. La poésie, je perds. Les élans de bravoure tombent en désuétude. » Je ne suis pas l'homme qu'on écoute, je ne suis pas celui qui sait, celui qu'on suivrait au bout du monde, partout, jamais. Non, je ne suis pas l'homme qui respire dans ta poitrine, celui qui marche en discontinu, qui te marche dessus, qui te marche dedans, celui que j'ai passé tant de nuits à traquer dans ton sommeil, sous tes paupières frémissantes. Non, je ne suis pas celui-là. Moi, je suis le deuxième homme, celui qui achète la mauvaise transaction, celui qui éponge la sueur, que le premier a fait couler entre tes seins. Moi, je suis celui à côté duquel on passe, sans jamais comprendre que c'est moi le héros. C'était le deuxième homme.
C'est le personnage, le deuxième homme.
C'est le personnage.
Oui, parce qu'en fait, il y a la première femme, le premier homme, le deuxième homme, le troisième homme.
Oui, parce que c'est tiré d'une pièce.
En fait, c'est tiré d'une pièce, oui. Le deuxième homme, c'est le personnage qui parle, du coup. Oui.
Merci beaucoup, en tout cas, Johanna, d'être venue partager avec nous ce livre, Is, donc sur la tempête, Lothar et beaucoup, beaucoup d'autres choses, et ce mythe de la submersion d'Is, aux éditions de La Crypte, et qui est sorti en mars, que vous pouvez déjà trouver.
Merci
la semaine
beaucoup.
Prochaine, merci à vous. La semaine prochaine, ce sera Alice de Brancion. On remercie la régie sur Aligre, et on vous souhaite une bonne semaine.
Protect me from what I want. Protect.
C'était Chute libre, entretien de Paul de Brancion avec des écrivains de poésie.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.